Le péché impardonnable. Jésus nous parle d'un péché éternel, impardonnable, et beaucoup se demandent quel est ce péché, alors qu'en fait, les Écritures sont assez claires. En Marc 3, versets 28 à 30, il est dit: « En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et tous les blasphèmes qu'ils auront pu proférer, mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. » C'est le péché impardonnable. Mais il est coupable d'un péché éternel, c'est qu'il disait, il a un esprit impur. Jésus nous dit, voilà, ces scribes et pharisiens qui disent, quand je chasse les démons, que je le fais par un esprit mauvais, sont coupables d'un péché éternel. Donc, ce que nous montre Jésus, c'est confondre l'esprit mauvais, l'esprit des démons, avec l'esprit de Dieu, est impardonnable, parce qu'il s'agit de croyants, hein, c'est de scribes et de pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de ministère de Jésus. Jésus ouvre le ciel pour qu'on puisse recevoir l'Esprit Saint. Si les personnes pensent que, des croyants, pensent que l'Esprit Saint, c'est l'esprit du mal, c'en est fini. Et on a ça tout le temps, en fait. Je me souviens d'une vidéo d'un soi-disant apôtre avec des millions de personnes en Afrique. Et à un moment donné, dans sa vidéo de présentation, alors déjà quand je vois foule, quand je vois qu'il arrive comme un président, j'ai déjà montré d'ailleurs des vidéos comme ça, c'est pas un apôtre du tout. C'est même pas un serviteur de Dieu. Il n'y a pas du tout d'humilité. Et il montrait la puissance de son ministère avec des soi-disant miracles. Et on voyait des vidéos où il y avait des insectes qui sortaient de la peau des gens à un moment donné avec des serpents ou je sais pas quoi. Mais c'est de la magie. C'est pas le bon esprit à l'œuvre. Et voilà un exemple, mais il y en a tellement d'autres, du fait de confondre un esprit avec l'autre. Et on le voit dans le pentecôtisme africain, on voit tout le temps cette confusion. C'est très souvent pas le bon esprit à l'œuvre. Moi, personnellement, je l'ai connu tout le temps. Quand je faisais des prophéties, des guérisons, des miracles dans le début de mon ministère, à chaque fois, on me disait que j'étais un démon. Mais pas une fois, 15 fois. Tellement fréquemment que je me suis habitué. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'Esprit de Dieu à l'homme. Et c'est ça dont nous parle Jésus. C'est un péché impardonnable. Jean nous parle également d'un péché qui conduit à la mort. Et on va l'examiner. En 1 Jean 5, versets 16 à 18, « Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène point à la mort, il priera et lui donnera la vie. Il la donnera à ceux qui pêchent d'un péché qui ne mène pas à la mort, deux fois. » Il y a un péché qui mène à la mort, trois fois, je ne dis pas qu'ils doivent prier pour ce péché-là. Et il continue, toute iniquité est un péché, c'est-à-dire tout ce qui est contre Dieu, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, c'est véritablement quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, dans le sens qu'il n'est pas touché par l'Esprit, et qui est croyant pourtant. Et qu'on voit tout le temps dans les églises actuelles. Voilà ce dont on nous parle, c'est-à-dire un péché qui est contre véritablement l'Esprit Saint. Alors, est-ce qu'on a des exemples dans le Nouveau Testament ? Oui, on en a. En Actes 5, versets 3 à 5, vous savez, Ananias qui avait détourné de l'argent. Voilà ce que dit Pierre. Mais Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint ?» Voilà le péché impardonnable. Tu mentes à l'Esprit Saint. « Et détourne une partie du prix de ce fonds de terre. Si tu ne l'avais pas vendu, ne serait-il à toi ?» Et Pierre continue, « Comment as-tu conçu dans ton cœur un tel dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Voilà. Parce que c'est nier l'omniscience de l'Esprit Saint. Bien sûr que l'Esprit Saint sait que l'on ment. Et essayer de tromper l'Esprit Saint, c'est renier, en fait, Dieu à travers l'Esprit Saint. Et là aussi, Jésus n'a plus de mystère. Si on pense que l'Esprit Saint, qu'on peut mentir à l'Esprit Saint, c'est fini. Et c'est incroyant. 1 Corinthiens 2, 10, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. On ne ment pas à l'Esprit Saint, on ne blasphème pas contre l'Esprit Saint. Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint pour qu'il soit en nous et pour nous guider. C'est ce qu'il y a de plus sacré hein, dans le monde, c'est l'Esprit Saint. Plus sacré, parce qu'il représente Dieu. Mais c'est véritablement, quand on s'attaque à l'Esprit Saint, tout est terminé. Et c'est vraiment ça, le péché impardonnable. Pierre continue en Actes 5, versets 9 à 11. « Comment un accord a-t-il été fait entre vous pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» C'est toujours contre l'Esprit Saint. Au même moment, elle tomba à ses pieds et expira. Et ça, on l'a tout le temps. Moi, j'ai entendu des enseignements dans le pentecôtisme africain où il fallait, en écoutant l'esprit, obtenir une promesse pour bloquer Dieu. Une fois qu'il a donné une promesse, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, voilà, on va bloquer Dieu. C'est d'avoir même cette pensée-là est un péché impardonnable. L'Esprit Saint, il sait très bien ce qu'il y a dans votre cœur. Vous essayez de l'arnaquer quelque part. C'est hallucinant. Et c'est d'autant plus faux que, en fait, les prophéties sont conditionnelles. C'est pas parce que vous avez une promesse que ça va s'accomplir. Après tout, Saul avait aussi une promesse. Et la plupart des promesses de l'Ancien Testament, même si beaucoup disent « Ah, c'est toujours vrai », pas du tout. Du fait de la désobéissance des Juifs, la plupart des promesses de l'Ancien Testament ne se sont pas réalisées. C'est ça qu'il faut bien voir. Mais on voit que ceux qui prêchent ça, et je l'ai entendu plusieurs fois, sont dans le péché impardonnable. C'est renier ce qui est l'Esprit Saint. Alors, j'ai un exemple concret. Il y a quelqu'un qui était clairement un faux prophète avec des millions de personnes, machin, machin. Là, je peux citer son nom parce qu'il est mort. Bon, c'est TB Joshua qui est très connu dans le Nigeria et qui a fondé Emmanuel TV. Alors, ça démarre très fort. Il revendique d'avoir passé 15 mois dans le ventre de sa mère. En fait, ce que ça me fait penser quand je vois ça n'a rien à voir avec Dieu, bien sûr. Ça a vraiment à voir avec l'islam et puis Mahomet, quoi. C'est vraiment des choses qu'on voit dans ces trucs-là. Et bon, il est multimillionnaire, hein. C'est 10 à 15 millions de dollars. Puis il a prophétisé que le Covid disparaîtrait dans le monde le 27 mars 2020 suite à sa puissance. Ça n'a pas marché. Et il est brusquement décédé le 5 juin 2021. Ça m'a intéressé parce que ça a fait poser beaucoup de questions. Comment ce gars qui était tellement général de Dieu, avec ses millions de vues, sa fortune, peut-il mourir? Ben, il meurt parce que ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec Dieu. S'il était utile à Dieu, il aurait vécu, quoi. Et c'est réel. Alors attention, attention, on est dans la fin des temps, ça veut dire beaucoup ne vont pas mourir brusquement comme TB Joshua, hein, bien sûr. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont dit, j'ai entendu un message de Dieu sur TB Joshua, c'est parce que son manteau est disponible, son manteau de puissance est disponible. Ah, ils se prennent pour Élie. Bon, d'accord. Mais c'est pas ça du tout. Donc, on a cet exemple effectivement de mort brutale. Mais j'insiste sur un fait, c'est que comme on est à la fin des temps, c'est rarissime. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous dit Jésus. Matthieu 13, versets 27 à 30, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il porte de l'ivraie? Et Jésus répond, c'est un ennemi qui fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'accueillir? Mais non, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître tous ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson. Et je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais quant au blé, amassez-le dans mon grenier. Voilà le modèle actuel. C'est pour ça que très peu vont mourir, en fait. Parce que ça, c'était valable, effectivement, surtout dans les exemples, dans les premiers temps de l'Église, mais dans la fin des temps, n'oubliez pas ce que nous dit Jésus, il faut que ces choses arrivent, il faut qu'il y ait l'Antéchrist partout, il faut qu'il y ait des fausses doctrines partout, pour qu'il y ait la différence entre le vrai et le faux esprit, et c'est l'objet du péché impardonnable. On a un autre exemple dans la Bible, quand Paul nous dit en 1 Corinthiens 11, versets 30 à 32, pour la Sainte Cène, c'est pour ça que parmi vous, plusieurs sont infirmes et malades, et que quelques-uns sont morts, si nous ne nous décernions pas nous-mêmes, nous ne serions point jugés, mais étant jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Pourquoi? Il y a quelques-uns qui sont morts dans les premiers temps de l'Église. C'est vrai qu'on ne voit plus ça dans les Églises actuelles. C'est parce qu'ils renient l'effet de l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui convainc du péché. Et c'est toujours la même chose, contre l'Esprit. Et quand on renie l'Esprit, on est contre le ministère de Jésus, on ne peut plus rien faire. Et on a cet exemple en Actes 16, versets 29 à 31, la conversion dans la prison. Il entra précipitamment et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Souvenez-vous, cet homme qui était le gardien de la prison. Et les ayant conduits dehors, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et eux dirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire qu'il avait la conscience de son péché par l'esprit. Et ça, c'est le fondement. Donc on n'a plus cette conscience du péché par l'esprit. Ça veut dire que c'est mort, véritablement. Et c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on nie, là aussi, l'action de l'Esprit-Saint. Jean nous dit en 1 Jean 14, 13, à ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Donc, si on n'a plus d'esprit, ou si on est contre l'esprit, ça revient à mourir. C'est la mort. Mort spirituelle, ça peut être une mort physique, mais c'est rare. C'est essentiellement une mort spirituelle. C'est aussi dit en 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12, « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Rappelez-vous l'apôtre, entre guillemets, tout à l'heure. « Et avec toutes les séductions de l'injustice pour que ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, péché impardonnable, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire, ce sont des croyants, mais qui croient des faux miracles, exactement comme ce qu'on voit dans beaucoup d'églises, dans un certain nombre d'églises, pas tous, au jour d'aujourd'hui. Et donc, ça ne fait pas par le bon esprit, et c'est fini, puisqu'ils croient au mensonge, et pas par l'esprit de vérité. Et Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est un péché impardonnable. Cette confusion entre les esprits, comme l'enseignement de Jésus, c'est la mort. C'est un péché impardonnable. Autre cas qui conduit à la mort, cette fois-ci symbolique, on l'a avec le figuier en Marc 11, versets 12-13. « Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose, et s'étant approché, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Et prenant la parole, il lui dit que jamais plus personne ne mange de fruits de toi. Et en Matthieu 21-19, il est précisé, et à l'instant, le figuier sécha. Donc, Jésus nous montre que pas de fruits égale mort. Et l'exemple égale mort, pourquoi? Parce que pas de fruits égale pas d'esprit. Et c'est la mort de ce figuier symbolique. Donc le figuier, il n'est pas pour grand-chose, puisque ce n'était pas la saison des figues, mais c'était un symbole très fort, un enseignement. Et l'autre possibilité, c'est que soit on est mort parce qu'on n'a pas de fruits, soit on voit la puissance de l'esprit à l'œuvre. Il n'y a que ces deux possibilités-là, puisque en Matthieu, il continue, Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Soit il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'esprit, soit on vit complètement l'esprit. N'oubliez pas que l'intermédiaire, c'est les chrétiens tièdes, un peu. Et Jésus vomit les chrétiens tièdes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est à la fin des temps, donc vous avez suivi les formations, on ne voit pas d'esprit à l'œuvre dans les églises traditionnelles, c'est purement charnel, par le raisonnement, purement humain. On voit très souvent un autre esprit à l'œuvre dans les milieux pentecôtistes africains, ou très peu d'esprit. On peut voir dans ces mêmes milieux pentecôtistes, parfois, un peu d'esprit, mais souvent, c'est aussi un autre esprit. Tout ça est mélangé. Donc, la question qui se pose, c'est combien entreront véritablement dans la Nouvelle Jérusalem? Parce qu'on voit bien, la fin des temps, tout ça est catastrophique. On est dans le péché impardonnable généralisé parmi les croyants. C'est une réalité spirituelle. Alors, suite à des visions, j'ai essayé de montrer un symbole tel que Dieu nous montre dans la Bible. Et je suis parti sur la Nouvelle Jérusalem, puisqu'on a en fait des chiffres pour la Nouvelle Jérusalem. En Apocalypse 21, 15, 16, « Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. » Donc on voit qu'un ange avait un roseau d'or. Donc il y a une symbolique de mesure très importante. C'est un roseau d'or pour mesurer la cité et ses portes et sa muraille. La cité est disposée en carré et sa longueur égale à sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau et il trouva 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Donc bien sûr c'est un nombre symbolique, 12, comme les 12 tribus d'Israël, mais ça représente en fait un cube, si on veut, de 3000 stades, puisque 4 fois 3, 12. Et un stade, c'est 185 mètres. Donc ça fait 555 kilomètres, c'est-à-dire, de côté, c'est-à-dire en kilomètres carrés, 308 024 kilomètres carrés. Donc, en voyant cette surface, on essaye de comparer avec ce que nous connaissons sur la Terre. C'est en fait la même surface que l'Italie. Et l'Italie, ça représente 0,2% de la surface habitable de la Terre. C'est, si vous voulez, si vous êtes en Afrique, un peu plus que le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est 0,18%. Donc on pourrait dire, voilà, la Nouvelle Jérusalem, c'est 0,2% de la surface habitable de la Terre. Sauf que là, le problème, c'est que c'est pour une seule génération. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est pour toutes les générations depuis Jésus, même aussi un peu avant, mais il y avait quand même peu qui, à part les prophètes, qui pouvaient accéder au salut comme ça. Donc la question, c'est combien de générations s'est faite depuis l'époque de Jésus? Alors, les scientifiques nous disent qu'il y avait une espérance de vie environ 35 ans jusqu'en l'an 1800. Il y a une très très forte mortalité infantile, des maladies, des guerres, etc. Donc, moi, je suis allé beaucoup plus loin, j'étais beaucoup plus généreux que ces chiffres-là, parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent jeunes qu'il n'y a pas d'adultes qui vivent un peu plus vieux. Donc, pour 20 générations, je suis parti sur 50 ans, ce qui fait 36 générations depuis l'époque de Jésus. Et entre 1800 à 2020, je suis parti sur 70 ans en moyenne, ça fait environ 40 générations. Et moi, je suis très généreux. Hein. Ça fait 0,05% de la surface habitable de la Terre. C'est-à-dire que la Nouvelle Jérusalem est un chiffre proche de zéro, en fait, par rapport à ce que peut contenir la Terre, le nombre de personnes sur la Terre. Pour vous donner une petite idée, comme je suis un peu généreux, j'ai essayé de prendre un pays que tout le monde connaît, la Suisse, qui représente 0,03%. C'est comme si tout le monde entier voulait massivement émigrer en Suisse. Ça ne marche pas, hein, évidemment. Alors bien sûr, on ne connaît pas non plus la surface qu'il faut pour une âme. Tout ça est symbolique. Mais Dieu nous parle par symbole. Et il nous montre symboliquement, de façon prophétique, que la Nouvelle Jérusalem a une taille négligeable, proche de zéro, par rapport à la terre. Et ce que nous dit la Bible, bien sûr, Jésus nous parle à plusieurs reprises de ça, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et notamment un passage sur lequel on va finir, Luc 13, versets 23 à 24. Or quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ils ne le pourront. Donc ça confirme tout à fait ce que nous montre la Bible sur la Nouvelle Jérusalem. Et attention, parce que là, il parle des croyants, il parle à des juifs. Pourquoi? Parce que juste avant, il disait, et ils traversaient les villes et les bourgs, enseignant et faisant route vers Jérusalem pour la fête de Pâques. C'était donc à des croyants qu'il dit qu'il n'y a qu'une porte étroite, beaucoup, je vous dis, chercheront à entrer, ne le pourront. Et le fondamental, c'est tout ce qui est péché contre l'esprit.